Décryptage. Anne Verdaguer.
Bonsoir à tous. Quel constat pour les Français après un an de crise sanitaire? Dans son baromètre annuel de la confiance politique, le CEVIPOF, le centre de recherche de Sciences Po, dévoile une grande lassitude et de la morosité de la part des Français, plus que dans certains autres pays européens. Les Français dont le sentiment de défiance est toujours important à l'égard du gouvernement et en particulier concernant la gestion de la crise sanitaire. Alors comment cette crise sanitaire a-t-elle changé la donne? Le cas français est-il un cas à part en Europe? Pour en parler ce soir, deux invités. Martial Foucault, le directeur du CEVIPOF, bonsoir.
Bonsoir.
Et Raoul Magny-Berton, professeur de sciences politiques à l'IUP de Grenoble. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
On va donc débuter avec cette étude du CEVIPOF dévoilée hier qui est riche d'enseignements. Martial Foucault, directeur du Centre de recherche de Sciences Po, comment on pourrait définir l'état d'esprit des Français un an après le début de la crise sanitaire?
Je crois que vous l'avez bien résumé. On a deux indicateurs très, très importants qui sont en forte augmentation par rapport à la même enquête produite l'an passé. C'est sentiment de lassitude suivi de morosité. Et la lassitude, c'est un phénomène nouveau. On ne l'observait pas les années passées, même au cœur des premières grandes crises. Cette enquête a démarré en 2009. Au lendemain de la crise financière, le sentiment de lassitude n'était pas prévalent, pour une raison évidente. Cela fait maintenant, comme vous l'avez dit, près d'un an que les Français sont dans cette situation un peu sous cloche au gré des différentes mesures sanitaires. Et puis, je dirais que la lassitude, il y a un phénomène qui pour moi est très préoccupant, c'est-à-dire que c'est pas homogène dans l'ensemble de la population française. J'ai pu remarquer qu'il y avait de grandes différences entre les hommes et les femmes. Les femmes manifestent davantage, expriment davantage ce sentiment de lassitude que les hommes. Les personnes âgées, beaucoup plus fort que les jeunes. Mais les jeunes, c'est près de 30% d'entre eux, moins de 24 ans, qui ont aussi ce sentiment de lassitude. Et aussi, une curiosité, les personnes les plus diplômées, voire les très diplômés sont les plus exposés à cette lassitude. Donc je crois que c'est une forme d'épuisement, la lassitude, quand on essaye de comprendre ce que renvoie ce terme de lassitude, un état de fatigue mentale, morale, affective. On a beaucoup parlé des souffrances de certaines catégories sociales. Et puis, je dirais que c'est cette manière de vivre de façon mécanique, il n'y a pas d'horizon, c'est l'incertitude. Et les Français ressentent cette impossibilité, en quelque sorte, de pouvoir penser, de pouvoir ressentir des émotions. Et au fond, les personnes agissent comme si tout leur était imposé. Et donc, on a beaucoup parlé de la résilience, mais la résilience ne permet pas de passer à travers cette crise. On voit bien que, en contrepartie de cette résilience, il y a aujourd'hui cette lassitude.
Et il y a aussi la peur. Quand on regarde les graphiques, cette peur recule par rapport au baromètre que vous aviez effectué pendant le premier confinement. Que peut-on dire de cela, de cette peur qui recule?
La peur, c'est pour moi une émotion très très importante, parce qu'on la compare souvent à deux autres émotions, à savoir l'enthousiasme ou la colère. Et il faut bien voir que la peur, c'est une prédisposition psychologique, subjective, qui a besoin d'un choc pour être réveillé, pour être activé. Et ce choc s'est produit il y a un an, mais il ne cesse de se poursuivre, parce qu'au fond, et on le voit en France, mais aussi dans les autres pays européens que nous avons enquêtés, c'est l'absence d'horizon, c'est le fait que des mesures sont en permanence modifiées. Et donc, le fait qu'on soit dans une incertitude totale entretient fortement la peur. Et la peur, c'est quel mécanisme psychologique? C'est très simple. Quand des gens sont traversés d'anxiété, ça produit un phénomène où on est obligé de réviser ses croyances sur ce que l'on pensait connaître d'une situation et qui est bouleversé sans cesse. Et donc cette peur, moi quand je le regarde d'un point de vue politique, produit aussi un certain nombre d'effets, de conséquences qu'il va falloir regarder avec beaucoup d'attention au regard des prochaines échéances électorales en France, mais aussi en Allemagne. On sait qu'en général la peur, c'est un puissant ressort, je dirais, du statu quo. Quand on a peur, on ne souhaite pas le changement. À l'inverse, la colère produit un phénomène inverse qui contribue à ce que finalement on veuille faire table rase de tout ce qui a été engagé comme action publique. Et là, on va davantage s'orienter sur les extrêmes d'un continuum politique, extrême gauche ou extrême droite.
Alors, cette photographie du moral et de la confiance des Français est mise en perspective, vous l'avez dit, avec d'autres pays, trois de nos voisins européens, l'Allemagne, le Royaume-Uni et pour la première fois l'Italie, autant de pays qui, on le sait, n'ont pas été épargnés par l'épidémie. Raoul Magny-Berton, j'aimerais vous donner la parole. Vous effectuez un travail de comparaison de la gestion de la crise sanitaire entre les États européens et sur la façon dont les mesures prises par les gouvernements sont acceptées, reçues par les populations. Comment vous avez, vous, analysé cette étude et notamment le fait que les Allemands et les Britanniques, par exemple, sont beaucoup plus sereins que les Français?
Oui. Eh bien, parce que, oui, donc on a conduit cette étude où on a une personne d'une université dans chaque pays d'Europe et qui collecte l'ensemble des mesures qui sont prises. Donc, déjà, ce qu'on a pu voir, c'est qu'en France, les mesures sont extrêmement dures par rapport aux voisins. Elles ressemblent davantage à celles qui sont prises dans les pays de l'Est, comme la Pologne, ou la Bulgarie, ou la Hongrie, plutôt que les pays de l'Ouest. Et d'autre part, aussi le vocabulaire utilisé, c'est-à-dire un vocabulaire très martial, de dire il faut gagner cette guerre, c'est également comparable avec les pays de l'Est, alors qu'il a été largement rejeté en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, dans les pays nordiques. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est assez fort, c'est-à-dire on a des mesures très très dures dans un contexte où le gouvernement commence ses mesures avec un score de popularité qui est, par rapport aux autres pays d'Europe, beaucoup plus bas. Donc, alors les deux choses sont potentiellement lié, parce que ce qu'on observe aussi, c'est que, vous savez, ce genre de crise fait que si on a une population qui a confiance dans le gouvernement, le gouvernement peut ne pas prendre des mesures très restrictives, mais simplement donner des recommandations. Si vous dites « gardez les distances » et tout le monde les garde, ça suffit en fait largement. Donc en fait, un gouvernement qui fait face à une population qui se méfie de lui a tendance à être plus restrictif, plus autoritaire, et la conséquence, c'est qu'on se méfie encore plus de lui.
Oui, c'est un peu un effet boule de neige qui n'en finit pas.
C'est un cercle vicieux, exactement, qui produit une situation où le gouvernement a sa popularité s'érode assez vite après un premier moment au moment de la crise où elle était montée, alors que dans les autres pays, elle reste beaucoup plus haute.
Mais Raoul Magny-Berton, comment explique-t-on que, vous disiez, les mesures en France sont beaucoup plus strictes, que les Français semblent accepter plus ces mesures par rapport, par exemple, à nos voisins des Pays-Bas, voire même en Italie, où il y a eu des émeutes là contre oui. Des mesures qui sont un couvre-feu, par exemple, aux Pays-Bas, qui est à 21h. Comment on explique ça?
Oui. Effectivement, on peut expliquer ça par le fait que en France, les mesures ont décru. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles sont beaucoup moins fortes, enfin un peu moins fortes que pendant le confinement. Ce qui est pas vrai en Allemagne, aux Pays-Bas et dans d'autres pays du Nord. Mais même aujourd'hui, vous prenez les Pays-Bas ou que vous citez, aux Pays-Bas. On est dans le moment où les restrictions sont maximales et pourtant sont moins fortes qu'en France où elles sont plus faibles qu'avant.
Donc tout est relatif.
Donc on a par conséquent, les gens, ils commencent à être pas habitués, c'est-à-dire que tout simplement ils ont un standard de respect de liberté individuelle aux Pays-Bas qui est beaucoup plus élevé. Et ce qui me frappe, c'est que c'est pas seulement les gens de la rue, mais c'est aussi les juristes. Parce que cette histoire aux Pays-Bas, où ils ont mis pour la première fois un couvre-feu, les Pays-Bas n'ont pas eu de confinement, hein, et ils ont mis un couvre-feu à 21h, outre que les protestations, le couvre-feu a été cassé aussi par le tribunal, et aujourd'hui est en attente en cour d'appel. Donc,
allez-y.
Excusez-moi,
non. Alors, je voulais juste revenir sur le cas de la France avec vous, Martial Foucault, et la confiance dans les institutions. On a des données dans cette étude qui sont assez contradictoires, je dirais, parce qu'il y a une méfiance envers les politiques. Ça, c'est pas nouveau, mais aussi une hausse de confiance dans le gouvernement et dans les institutions en général. Comment on peut un peu décrypter cela?
Il y a deux réponses, mais si vous m'autorisez, je voudrais prolonger la discussion initiée par Raoul Meunier-Bertrand, parce que vous soulevez un point qui est très important et qui fait le lien avec le sujet de la confiance. Je crois qu'on ne peut pas comprendre les différences d'acceptation et d'acceptabilité sociale des mesures sanitaires, des injonctions, des mesures de confinement dans tous les pays d'Europe, si on ne s'interroge pas sur ce que fait la confiance dans cette situation de crise. Il y a deux types de confiance. Je crois que c'est important de distinguer la confiance politique, et alors là, on sait qu'il y a un raz-de-marée, un océan de défiance dans plusieurs pays européens, dont la France en particulier, mais aussi l'Italie. Et puis, il y a une autre forme de confiance qui, elle, est beaucoup plus intéressante pour comprendre l'adhésion, l'obéissance, le respect des mesures sanitaires. C'est la confiance vis-à-vis des autres, ce qu'on appelle la confiance interpersonnelle, la confiance sociale, ce qui produit du capital social. Et là, moi, je remarque quelque chose qui est extrêmement important. La France se singularise comme étant un des seuls pays pour lesquels l'acceptation des règles et des mesures sanitaires a été beaucoup plus élevé que dans beaucoup d'autres pays, en particulier les Pays-Bas, mais aussi les pays du Nord. Oui. Comment expliquer ce phénomène? Eh bien, quand vous êtes dans une société, vous gouvernez une société très défiante vis-à-vis des autres, ce qui est le cas de la France, vous mettez en place un confinement ou des mesures très restrictives, eh bien, c'est beaucoup plus simple d'accepter ces mesures parce que on a, au fond, peu besoin d'interaction sociale vis-à-vis des autres. Donc, lorsque vous êtes confiné, ce qui fait votre bonheur personnel n'est plus alimenté dans le rapport à l'autre. Dans des pays comme la Suède, les Pays-Bas, le Danemark, où on a des niveaux de confiance interpersonnelle très élevés, interrompre ce qui fait les interactions sociales suscite énormément de protestations et de contestations. Donc, je dirais que ça, c'est le premier point qu'il faut garder à l'esprit. Confiance politique, confiance interpersonnelle. Maintenant, vous m'interrogez sur la confiance institutionnelle. Oui, vous avez raison. Il y a une forme de contradiction, de paradoxe dans notre dernière enquête. C'est-à-dire que on n'a pas observé un décrochage très, très fort des Français vis-à-vis de leurs représentants. On le savait, en général, il y avait une distinction. Les Français aiment beaucoup leurs représentants locaux, le maire, le conseiller départemental. Bon, cette fois-ci, on voit que même les représentants nationaux, le gouvernement, les députés, les sénateurs, alors que le Parlement a été quasiment mis sous cloche pendant cette période depuis un an, ils considèrent que le politique n'a pas une responsabilité totale, entière et absolue dans la gestion de cette crise. Mais ça soulève le deuxième argument de la contradiction, c'est qu'en même temps, ils considèrent que le gouvernement ne leur fait pas confiance pour passer à travers cette crise. Et donc, il y a une forme de reflux de la part des Français vis-à-vis de leur gouvernement. Et c'est toute cette séquence de responsabilité individuelle, le sentiment d'avoir été infantilisé vis-à-vis d'un certain nombre de mesures. Et donc là, on a un vrai choc de confiance institutionnelle. Les Français ont peu confiance vis-à-vis de leurs représentants politiques, mais ils estiment que leurs représentants politiques ne leur font pas non plus confiance pour passer à travers cette crise.
Martial Foucault, est-ce qu'on peut parler en France également, est-ce qu'il pourrait expliquer cette défiance d'une gestion verticale finalement de cette crise sanitaire? On le voit avec la multiplication des conseils de défense qui sont des lieux qui semblent être des lieux clos, assez secrets. Et est-ce qu'on peut expliquer que les Français vivent assez mal ces prises de décision?
Oui, et là, notre enquête, en comparant à la fois la situation française avec l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni, on voit que deux pays de tradition, pays unitaires, c'est-à-dire très jacobins, comme la France et le Royaume-Uni, opposés à l'Italie et l'Allemagne, tradition plus décentralisatrice, plus fédérale, fédérale pour l'Allemagne, plus décentralisatrice pour l'Italie, on ne retrouve pas ce sentiment de verticalité dans les autres pays. Donc ça veut bien dire que oui, en France, il y a eu mais le phénomène n'est pas propre à la crise sanitaire. Il s'est, d'une certaine manière, amplifié pendant la crise sanitaire. La verticalité de la décision publique, plutôt que du pouvoir, mais de la décision publique, a été très mal comprise. Et l'ensemble des polémiques qui ont conduit un certain nombre d'associations, d'élus locaux, à vouloir, dès le mois de avril, mai, prendre part à la stratégie de confinement, mais surtout de déconfinement, illustre, de mon point de vue, à merveille, ce qui aujourd'hui est perçu chez les Français comme des mesures imposées, des mesures dans lesquelles il n'y aurait pas d'autre alternative, et que cette culture qui manque de la co-construction ou la culture du consensus sur un certain nombre de mesures n'est pas vraiment comprise par les Français. Et vous rajoutez ce que vous venez d'indiquer est très juste, l'installation de conseils de défense régulièrement convoqués pour lesquels je dirais que institutionnellement les Français n'avaient pas la connaissance avant cette crise sanitaire, rajoute ce sentiment que tout est imposé, construit sans prendre part de leur ressenti vis-à-vis de cette crise.
Raoul Magny-Berton, est-ce que les pays à gestion décentralisée, comme le disait Martial Foucault, comme l'Allemagne ou la Belgique, obtiennent-ils de meilleurs résultats dans leur gestion de la pandémie?
Alors, ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à dire, parce que dans un premier temps, quand on était dans la première vague, les pays décentralisés obtenaient clairement de meilleurs résultats, particulièrement la Suisse, l'Allemagne. La Belgique, c'était plus compliqué, mais on a découvert après, c'est parce qu'elle était, elle comptait ses morts de façon extrêmement sévère. Donc voilà. En revanche, et puis la Belgique surtout a eu une gestion qui est quand même beaucoup moins centralisée que l'Allemagne. Hein. Elle s'est assez centralisée sur la gestion. De la deuxième vague, les choses sont un peu moins claires. Il n'est pas clair que quand c'est décentralisé, ça se passe mieux. Mais ce qui commence à être assez clair, c'est qu'effectivement, lorsqu'il y a beaucoup de contre-pouvoirs, que les décisions sont prises à plusieurs, ça se passe mieux. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que, effectivement, en France, manque terriblement. C'est-à-dire, c'est pas, je suis d'accord, les gens le sentent, mais c'est vrai, en fait. Les décisions sont prises. Imaginez que ceux qui n'aident pas, c'est que la France et le Royaume-Uni, que citait Martial Foucault tout à l'heure, en outre qu'être jacobin, ils ont des systèmes électoraux très majoritaires. Et en France, nous sommes dans une situation record de la Ve République, dans laquelle environ 14% de l'électorat a élu 60% des députés. Donc on a une situation dans laquelle il faut voir que il y a des majorités très très fortes et très solides, mais qui sont supportées par très très peu de monde.
Martial Foucault, est-ce que finalement la solution pour gagner la confiance des Français ne serait pas d'intégrer plus les Français eux-mêmes, hein, les citoyens dans les prises de décision?
Oui, certainement. Je crois qu'on manque cruellement d'expérimentation pour trouver la pierre philosophale à ce régime de la démocratie électorale.
Mais alors, dans votre étude, les Français sont assez sensibles à cette participation, on le voit. Hein.
Oui, absolument. Et je crois qu'ils poursuivent ce débat qui a été engagé depuis le mouvement des Gilets jaunes, en quelque sorte, et qui a permis de mettre en évidence qu'entre deux échéances électorales aujourd'hui, le système de démocratie représentative repose essentiellement sur la démocratie électorale, la légitimité de l'élection et au fond presque du régime politique est étroitement lié au rendez-vous électoral présidentiel. Je crois que cette crise montre à l'évidence que les Français souhaitent qu'il y ait d'autres moments. Alors, je sais bien qu'on discute depuis plusieurs mois d'expérimentation de la démocratie participative, délibérative. Mon collègue Raoul Magny-Berton connaît bien ces sujets. Mais je dirais qu'on arrive à la fin d'un cycle, un cycle de la démocratie électorale. Donc oui, il faut inventer des espaces, des lieux dans lesquels on puisse discuter et relégitimer la décision publique. Parce que ce que l'on vient d'évoquer ensemble, c'est au fond aujourd'hui beaucoup de décisions prises par le pouvoir central ne sont pas comprises parce qu'elles n'ont pas été préparées. Et c'est pas que de la pédagogie ou de la communication politique. Non, c'est véritablement du débat. Il s'agit de discuter et de faire adhérer l'ensemble d'un corps social à ces mesures qui sont extrêmement dures pour que effectivement il n'y ait pas de contestation, parce qu'on sait que quand il y a contestation, c'est la légitimité du pouvoir politique qui est remise en cause.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci Martial Foucault, directeur du CEVIPOF, et Raoul Magny-Berton, professeur de sciences politiques à l'IEP de Grenoble. On se retrouve demain pour un nouveau décryptage et on parlera de l'espace. À demain, très bonne soirée à tous.
RFI. Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions.